Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Nous repartons en balade sur les chemins et sentiers de la belle Auvergne pour découvrir des arbres, mais pas n'importe quels arbres. Nous allons découvrir des arbres qui ont des ports particuliers, des aspects particuliers et qui ont donné lieu à un ouvrage qui vient de sortir et qui porte le doux nom de Bizarbre. Alors vous imaginez que quand c'est bizarre, nous, ça nous attire bien évidemment. Et nous allons réaliser cette balade avec l'auteur de ce livre. Il s'agit de Catherine Naine que nous allons rejoindre dans quelques instants.
Découvrir l'Auvergne.
H2O vous emmène en balade.
Catherine Naine, bonjour.
Bonjour.
On repart en balade avec vous, avec grand plaisir, comme nous l'avions fait pour votre livre « Dans la peau d'un arbre
oui. »,
sur votre kilomètre de confinement sur la commune de Saint-Genès-Champanelle.
C'était ça, oui.
On a changé de décor, là. On est où, ici?
Alors, on a changé de décor et en même temps, on est encore un petit peu au même endroit. On est dans une hêtraie et on va monter sur un puits auvergnat.
Vous dites on est sur le même endroit parce qu'on est toujours sur la chaîne des puits.
On est à peu près sur la chaîne des puits, à peu près dans le même étage où nous étions là. Il y a quelques années.
Et vous avez opté pour le puits des gouttes, ce qui tombe bien parce qu'aujourd'hui il pleut un peu.
Voilà.
Donc c'est raccord.
Donc c'était pour faire honneur à la pluie et pour se rappeler qu'il faut qu'il pleuve pour les sols et pour les arbres. Les arbres sont réputés pour provoquer la pluie, c'est-à-dire par les molécules qu'ils évaporent, ils facilitent la formation des gouttes d'eau au-dessus de leur tête. C'est pour ça qu'au-dessus des forêts en général, les nuages se forment.
Vous voyez que les arbres ouvrent un champ des possibles extraordinaire, champ des possibles qu'on peut appeler une forêt bizarre, et c'est ce que nous allons découvrir à travers cette balade.
Découvrir, observer,
s'évader, respirer,
contempler. H2O en balade.
Vous avez dit Bizarbre, c'est le titre du livre que vous venez d'éditer aux éditions Belin, Catherine Naine, et on va découvrir quelques sujets qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce livre. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est pour quelle raison avoir justement consacré un livre à ces sujets, aux ports étranges ?
Eh bien, parce que souvent, quand les gens se promènent, et ils voient des arbres, ils aiment en général voir des arbres, et il y en a quelques-uns, ils s'arrêtent devant, ils font « Waouh ! Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Et ça, c'est cette question en fait qui donne naissance à ce livre. Dans ce livre, je me suis dit, je vais répertorier quelques bizarreries ou bizarbreries qu'on peut rencontrer tous hein, dans nos promenades à la campagne, en forêt, mais même dans les parcs, dans les villes, et expliquer aux gens pourquoi cet arbre il a tel port, pourquoi cet arbre il est bizarre finalement.
Alors à l'attaque du chemin du puits des gouttes, on traverse une hêtraie.
Oui.
Et on a en face de nous justement deux hêtres. Il s'est passé forcément quelque chose là.
Oui,
on a l'impression que celui de gauche embrasse celui de droite.
Exactement.
Donc pour une fois que la gauche embrasse la droite.
Nous avons donc deux troncs, deux jeunes hêtres, ils ne sont pas encore bien vieux. Qui poussent de assez proches et se sont gênés dans leur croissance. Et donc, il y a un moment, effectivement, où on voit que les deux troncs se rejoignent et l'un applique des espèces de gros bourrelets sur le tronc du voisin, comme si il tendait sa bouche, comme s'il il embrassait son voisin avec des lèvres bien pulpeuses. Et on voit donc ces choses-là qui s'appliquent sur le tronc d'à côté, ça s'appelle des bourrelets de recouvrement. Et juste pour que vous compreniez ce que c'est, Christophe, vous avez juste en dessous une blessure sur ce même tronc où vous avez ce fameux bourrelet de recouvrement qui est là en train de refermer la plaie. Vous voyez, il n'y a plus d'écorce, on voit le bois qui est à nu. Et ce bourrelet de recouvrement, c'est un bourrelet de bois, également de liège. Et c'est lié à la prolifération du cambium. Le cambium étant cette couche de cellules souches qui est juste sous l'écorce et qui fabrique normalement le bois, le cerne annuel de bois, qui le fabrique de manière normale. Mais quand il y a une blessure, quand il y a un frottement entre deux troncs, eh bien ce cambium s'affole en fait.
D'accord.
Et donc il prolifère et il va fabriquer cette espèce de bourrelet qui a pour fonction de refermer les blessures, mais également d'avaler tout objet qui vient se presser contre le tronc. Ici c'est un autre tronc, Mais vous connaissez aussi le phénomène des pancartes qui sont avalées par les arbres. Et c'est la même chose, hein, c'est dès qu'un objet est apposé sur un tronc, le cambium va proliférer et va venir recouvrir, enfin le bourrelet va venir recouvrir l'objet inconnu.
Alors, ce que nous avons là sous les yeux réveille le coquin que je suis, parce que je vois beaucoup d'érotisme, moi, à travers tout
oui,
ça.
Oui, alors, effectivement, Christophe, on met beaucoup d'anthropomorphisme dans les arbres. Il y a beaucoup de formes qui nous inspirent des ressemblances. Et ça, c'est un biais de notre cerveau. Hein. C'est normal d'aller chercher des images qui correspondent à notre monde humain, l'érotisme en particulier. Donc, ça ne m'étonne pas. Et effectivement, on a l'impression de voir deux arbres embrassés et dans un baiser plus que voluptueux.
Oui. Je ne sais pas si c'est ce qui a inspiré un cœur qui a été
voilà,
gravé sur le
être
d'à côté.
Oui.
Donc, il y a un troisième être. Et là, on a un gros cœur avec F plus C.
Voilà. Donc on a François et Corinne qui sont passés par là.
Oui. Hein. Ouais.
Certainement. Deux imbéciles heureux, puisqu'ils
ouais.
étaient amoureux.
Mm-hmm.
Est-ce qu'ils le sont encore ? Est-ce que la marque valait la chandelle ? On ne sait même pas si ces deux personnes sont encore ensemble. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce qu'ils ont infligé à cet arbre-là, c'est une blessure. Avec le couteau, on blesse l'écorce. Le hêtre a une écorce en plus relativement fine. Donc le couteau a de grandes chances d'entamer l'écorce jusqu'au tissu vivant qui se trouve derrière, à savoir le libère dans lequel circule la sève élaborée de l'arbre, la sève sucrée, et le cambium qui est juste derrière, et le jeune bois encore un petit peu plus profond. Donc quand on entame un arbre avec un couteau, bah, on risque fort non seulement de blesser les tissus vivants, mais surtout d'y introduire des pathogènes.
Quoi qu'il en soit, c'est un peu comme les tatouages. Ça peut être risqué parce que ça reste et parfois on le regrette.
C'est vrai.
C'est pour ça que je ne vais pas tatouer. Moi,
moi non
pas
plus.
Voulu. Pourtant, la SPA, ils ont voulu, mais je dis non, vous ne tatouez pas. On va continuer la balade.
Ça marche. H2O en balade.
Sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes sur les flancs du Puy des Gouttes, au cœur de la chaîne des Puys, en compagnie de Catherine Laine, botaniste amoureuse des plantes et amoureuse des arbres au port bizarre, à tel point, Catherine, que vous avez écrit un livre qui vient de paraître chez Belin, intitulé « Vous avez dit bizarre ».
Oui.
On n'a pas fait énormément de chemin entre les premiers sujets qui nous ont interpellés et le second sujet. On est toujours au milieu de cette forêt de hêtres. C'est toujours un hêtre qui a attiré votre regard, Catherine. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce hêtre ?
Alors, là encore, ce n'est pas un vieux hêtre, c'est un jeune hêtre avec un tronc normal. Et puis, tout d'un coup, à hauteur de nos yeux, on voit qu'il a une espèce d'oreille et un axe qui part de son tronc et qui revient dans le tronc, comme une anse de théière, une anse de tasse.
Donc,
et on
trou.
Voit le trou, voilà, il y a un trou, on voit l'hêtre à travers le trou. La branche en question, enfin l'axe, la lance, on voit qu'elle elle est nécrosée, hein, elle est en mauvais état. Mais quand même, cet arbre, il m'interpelle, parce qu'en plus de l'autre côté de l'anse, on voit qu'il y a un bourrelet, la trace d'une ancienne branche, qui fait comme le museau d'un animal. Ce qui fait que vous parliez de ressemblance tout à l'heure. Moi, j'en vois une ici. J'ai l'impression de voir un animal avec son petit museau, son œil, peut-être sa petite oreille, et puis une corne centrale, un peu comme une licorne.
Un animal. Alors, j'y voyais vous êtes dans le côté légendaire, bien évidemment. J'y voyais, moi, la tête d'un animal préhistorique, vous voyez,
oui.
Façon diplodocus, un peu.
Ah oui, tout à fait. Oui, ça peut ressembler à ça. Donc, quand je vois ça, effectivement, je m'arrête. Et vous disiez, Christophe, on n'a pas fait beaucoup de pas. Et c'est ça qui est génial dans la recherche, la chasse au trésor des bizarres, c'est qu'on n'est pas obligé de marcher beaucoup. Donc, que lui est-il arrivé ?
C'est la question qui brûle mes lèvres,
voilà, exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
Donc, en général, quand on est face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, faut tourner autour de l'arbre.
Mm-hmm.
Il faut aller voir toutes ses faces, parce que souvent, la réponse, elle peut être de l'autre côté, d'accord ? Donc, si on fait le tour de l'arbre...
Ouais. Ah oui, on n'a pas du tout la même vision.
Voilà, donc on le regarde de dos finalement. Et l'anse dont je parlais, bon, vous voyez nettement que c'est une branche de cet arbre qui est courbe, très courbe.
Elle a été contrariée.
Alors elle a été contrariée, peut-être qu'elle a été gênée par un autre arbre qui poussait à côté qui n'est plus là. Peut-être qu'elle a été un petit peu cassée, qu'elle a repris sa croissance et qu'elle a figé ce mouvement de courbure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle revient vers son tronc d'origine. D'ailleurs, vous la voyez, elle est là, elle repart, elle est en train de mourir. Hein. Elle se fonde dans le tronc. Il y a une fusion de cette branche dans le tronc qui la porte. La fusion marche très bien là parce que c'est le même génotype, c'est le même arbre, c'est une branche de cet arbre qui se fusionne sur son propre tronc. C'est ce que j'appelle un peu les arbres théières, moi, voilà. Donc la fusion a bien fonctionné, puis elle ressort là et elle repart librement vers le haut, à la verticale, à côté du tronc, mais on voit bien qu'elle est en train de mourir cette partie verticale. Pourquoi ? Parce que ici, la fusion, elle doit quand même modifier les tissus conducteurs d'eau, en particulier donc le bois, ce qui fait que l'extrémité de la branche n'est plus alimentée en eau. Peut-être que cette eau qui passe par cette anse est détournée pour le tronc, vers le tronc en fait.
Ce qui n'empêche pas l'arbre de vivre sa vie d'arbre.
Ah oui, complètement. Hein. Ces fusions, ça ne change rien. Les hêtres sont des champions dans les fusions. Vous allez voir, après on va reprendre notre marche, puis on va chercher des yeux, vous en verrez partout. Dans une hêtrée, c'est très facile à trouver, il y en a vraiment énormément.
En tout cas, ça donne lieu à une sculpture végétale assez étonnante là.
Oui, elle est assez belle celle-là.
Et qui se révèle différemment suivant l'endroit où on se trouve en faisant le tour de l'arbre.
Tout à fait.
Donc là, on peut vraiment s'amuser en famille.
Oui, c'est le but.
Ouais. On y planterait Sylvain Tesson, là, il y resterait des heures. Là.
Ah oui, mais moi, je resterais bien des heures avec Sylvain Tesson.
Oui,
pas
d'accord. Bon, on va l'appeler Sylvain. T'es libre ? Ok. On va continuer cette balade donc à la découverte des bizarres. Vous avez dit bizarres, hein, c'est le titre de votre livre. Catherine, disponible dans toutes les bonnes librairies et qui permet en fait, on l'a pas dit hein, jusqu'à présent, mais d'inciter en réalité le lecteur à aiguiser son regard de curieux et d'enfant un peu
à
aussi
ouvrir les yeux,
au gré d'une balade. Hein.
Oui.
C'est ça.
C'est ça.
C'est l'intention
s'amuser.
Que vous avez donnée.
C'est l'intention, c'est ouvrir les yeux, regarder, s'émerveiller. La curiosité est satisfaite puisque j'explique scientifiquement la raison de ces bizarreries. Ou du moins je propose des interprétations, parce que parfois je ne suis pas sûre de ce que je vois, moi non plus. Hein. Et voilà, le but étant la leçon de choses finalement.
Voilà, et la curiosité c'est gratuit pour l'instant, non imposé. Je dis pour l'instant parce qu'on peut s'attendre à tout. Allez, c'est reparti.
H2O en balade sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Nous sommes sur le chemin d'accès du Puy des Gouttes, au cœur de la chaîne des Puys, en compagnie de Catherine Naine, botaniste et auteure d'un livre intitulé « Vous avez dit bizarre », un livre paru aux éditions Belin. Et Catherine, le long de ce chemin, il y a pléthore de sujets à évoquer en matière de ports bizarres ou d'aspects étranges qui peuvent amener des tas de lectures. Là, on est devant ce que moi j'appellerais, moi qui suis un néophyte, une sorte de CP de hêtres. Donc c'est un regroupement de hêtres, c'est
oui.
Une famille là.
Voilà, on a une espèce de bosquet où les troncs sont très proches. Et si on observe la base des troncs, on voit bien qu'il y a de la fusion, hein, les troncs sont fusionnés. Donc vous avez raison Christophe, vraisemblablement, peut-être pas tous, mais vraisemblablement on a là des arbres qui ont été exploités par l'homme, qui ont été coupés, on a récolté le bois, les souches sont restées vivantes, et de ces souches sont repartis des rejets, ce qu'on appelle des gourmandes, entre guillemets, hein, des rejets, c'est-à-dire des réitéras. Le réitéra, c'est une copie que l'arbre refait, il se reconstruit à l'identique, à partir de la souche, et en particulier à partir de la périphérie de la souche.
Ce qui est le cas là, de ce regroupement de hêtres, est-ce que ça veut dire qu'en fait on a une seule et même base ?
C'est possible, il faudrait pour en être sûr faire une analyse génétique de chacun de ces arbres, hein, récupérer des feuilles de chacun de ces troncs et comparer les génomes. Et peut-être que là on serait sûr d'avoir un clone. Le clone, c'est-à-dire c'est un ensemble d'individus qui ont exactement le même patrimoine génétique. Et ça c'est possible dans le monde végétal, c'est même très fréquent, et en particulier chez les arbres comme le hêtre, où effectivement tous les rejets auront le même patrimoine génétique que la base d'origine.
Ouais.
Voilà, donc c'est assez émouvant en général de regarder ces formes-là, parce que bien sûr elles sont sculptées par l'homme. Bien sûr c'est pas une forme complètement naturelle, elle est artificielle, mais justement elle témoigne du travail de nos aînés, du travail pénible parfois que nos aînés avaient, et j'imagine peut-être ici dans cette région c'est plutôt des charbonniers qui venaient couper ces hêtres, récupérer le bois et en faire du charbon de bois.
Pour autant, si ça avait été réellement néfaste pour l'arbre, on n'aurait pas ce qu'on a sous les yeux là.
Non, bien sûr, il serait plus là.
Ouais.
Donc on voit bien là aussi encore une fois une preuve de la plasticité des arbres. Un arbre coupé dont il ne reste que la souche, c'est très vrai chez les feuillus, eh bien faut le laisser, la souche si elle est bien vigoureuse, elle va repartir, elle donnera des rejets.
Donc, parmi les bisarbres, il y a des bisarbres qui ont un port naturel parce que
c'est
l'évolution
ça.
A fait, ou des accidents lors de la croissance ont donné lieu à des formes très étranges.
Oui.
Et puis, il y a la main de l'homme.
Il y a la main de l'homme qui peut être considérée comme un accident, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, cette main de l'homme qui sculpte aussi les arbres.
C'est ce qu'on voit, par exemple, à travers ce qu'on appelle les trognes.
Alors, tout à fait. La trogne, c'est un petit peu le même principe. Mais au lieu de couper l'arbre à la base, au niveau de la souche, on la coupe un peu plus haut. Donc là, les rejets vont repartir de la tête de l'arbre coupé. Ces rejets, on va les couper périodiquement, c'est-à-dire qu'on récolte périodiquement le petit bois pour faire du bois de chauffage, ou même les feuilles pour faire de la nourriture pour le bétail. Et les rejets qui repartent, toutes les 5 à 10 ans, on vient les récolter périodiquement. Et donc, comme on recoupe toujours au même endroit, les bourrelets de recouvrement dont je parlais, qui viennent recouvrir les blessures, font que cette tête, elle va grossir. La tête va se déformer petit à petit. Et vous voyez, même sur le bosquet, la base des troncs, on voit bien qu'il y a plein de grosseurs, de déformations. Et vraisemblablement, c'est lié à ces coupes successives, en fait.
Alors, c'est très impressionnant, parce que quand on voit des trognes qui ont été ététés, qui ont donné naissance à ces fameux têtards aussi, c'est comme ça
qu'on
les appelle.
Voilà, les arbres têtards, oui.
On se dit, oulala, mais ça y est, il en est fini de la vie de cet arbre.
Oui.
Et paradoxalement, pas du tout.
C'est vraiment... cet arbre trogne, on l'appelle aussi l'arbre paysan. J'adore cette dénomination, parce que c'est l'arbre qui rend service aux paysans dans les campagnes. Et c'est une façon d'exploiter le bois qui est formidable, parce que on ne tue pas la poule aux œufs d'or. On ne tue pas le tronc, on ne tue pas l'arbre, on ne prélève pas tout l'arbre. On ne prélève que du petit bois et on laisse le temps à l'arbre de se reconstituer. Et étonnamment, les trognes, la taille en trogne, prolonge la vie de l'arbre. On a montré que la longévité d'une trogne, par rapport à l'essence à laquelle elle appartient, est toujours très supérieure à la moyenne.
Donc quand on enlève ces branches de ces arbres têtards ou les trognes, c'est un petit peu comme quand on se coupe les cheveux pour nous, alors, d'une certaine manière.
C'est un raccourci facile, parce qu'il y a cette forme de tête aussi qui peut évoquer ces cheveux. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Là, on a vraiment la reconstitution d'une forêt suspendue, si vous voulez. Chacun de ces rejets est un tronc, est un réitérat de l'arbre, et vous pouvez tout à fait admirer une trogne et vous dire « je suis en train d'admirer une forêt » suspendu au sommet d'un petit tronc. C'est joli.
C'est joli, oui, effectivement. Comme quoi, on voyage beaucoup quand on est un peu observateur et qu'on admire ces arbres qui nous offrent tant de possibilités de voyage et d'imaginaire. Eh bien, on va continuer.
Avec plaisir.
Podcast, photos, infos, la balade H2O continue sur francebleu.fr.
Nous continuons notre balade en compagnie de Catherine Laine, auteure du livre, vous avez dit, Bisarbres, paru chez Belin. Des arbres, comme le nom l'indique, comme le titre de votre livre l'indique, qui ont des ports très particuliers. Chacun y verra ce qu'il veut d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant à travers
tout à fait, l'imagination de chacun.
Et là, nous sommes face à un sujet qui... personnellement, on me rappellerait éventuellement un instrument de musique.
Oui, c'est vrai. Alors, on a face à nous un conifère dont le tronc est un peu incliné, c'est-à-dire on sent que l'arbre il a dû être un petit peu abattu par un coup de vent. Et une de ses branches, je pense, s'est posée au sol. Cette branche, elle est donc horizontale sur le sol. Et ce qui est amusant, c'est qu'on la suit des yeux et on voit que l'extrémité de la branche, à un moment, se courbe vers le haut et se déplie, ça a une forme de serpent à sonnette qui sort de son panier et redevient vertical. Ça, c'est le bout de la branche. Elle est même d'ailleurs en train de mourir aussi. Mais regardez, avant, sur le long de cette branche horizontale, vous avez des rejets verticaux. Là, il y en a deux, absolument magnifiques. Donc, comme deux cordes de harpe qui seraient tendues sur ce support de bois. C'est ce qu'on appelle un arbre lyre. L'arbre lyre, souvent, c'est le tronc entier qui est à terre et qui va rejeter le long de ce tronc abattu grâce à des bourgeons qui sont cachés sous l'écorce. On appelle ça des pousses épicormiques qui traversent l'écorce. Et là, bon, vraisemblablement, c'est plutôt une branche qui a donné naissance à ces rejets, mais ça a une forme d'arbre lyre.
Donc, il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement qui
a eu un événement grave. Là, c'est sûr qu'on voit le tronc complètement affaissé. Cet arbre-là, il était tombé, peut-être par un coup de tempête. Peut-être que le passant aurait dit « bon, celui-là, il est foutu, il faut le tronçonner et l'enlever ». Eh bien non, il faut le laisser en place, parce que si l'arbre n'est pas déraciné, il n'est pas mort. Et la preuve, c'est qu'il va renaître de ses cendres, si j'ose dire, et faire preuve d'une résilience formidable pour retrouver une forme d'arbre acceptable pour un arbre. Qu'est-ce que c'est une forme d'arbre acceptable pour un arbre ? Une forme socialement acceptable chez les arbres, c'est une forme verticale. Et il retrouve la verticalité grâce à ses rejets, en fait.
Ça apprend finalement à accepter la différence, hein, tout ça.
Oui, ça apprend, c'est exactement ça. Ça apprend à la voir, à l'admirer, et surtout, oui, à comprendre la puissance de vie qu'il y a derrière.
Et puis, vous avez utilisé un terme qui revient fréquemment dans votre livre, c'est la résilience. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait d'un arbre, on se dit, bah, il est fichu, il est foutu, oui, c'est terminé. Et en fait, quand la vie a décidé de se développer malgré tout, quoi qu'il arrive.
Surtout chez les arbres.
Surtout chez les arbres. Oui. Coûte que coûte, ça y va, quoi.
Ça y va, ça repart, ça se reconstruit avec une autre forme, certes, mais une forme socialement acceptable pour un arbre.
Et on a, dans la perspective de cette lyre, à votre droite, vous qui nous écoutez dans votre poste, à notre droite, on a un être pareil, qui a un portrait particulier, qui est parti dans tous les sens. On a l'impression que c'est une énorme souche qui a été déterrée. Là, il s'est probablement, là aussi, passé pas mal d'événements.
Oui, on a l'impression de voir cet arbre à moitié déraciné, qui a certainement repris sa croissance en se recourbant, enfin en se redressant, pardon, à la verticale. Mais entre-temps, l'homme est passé par là, l'a taillé, on a fait une trogne. Et cette base, elle s'est épaissie. On a les rejets assez jeunes au-dessus. Et ça donne une espèce de pieuvre fantastique. Un monstre, mais un monstre magnifique.
À chaque fois, ça nourrit l'imaginaire.
Oui. Ça
nous fait retomber dans notre âme d'enfance.
Ah oui, complètement. Il y a le côté chasse au trésor. Et ensuite, le côté qu'est-ce que j'y vois et quel animal fabuleux. Oui, il y a vraiment... Une quête enfantine. Oui,
ouais, c'est clair. Et puis, on est dans une ambiance. Là, il y a de la mousse, il y a une certaine humidité ambiante.
Il y a le vent.
Il y a le vent, ouais, qui rajoute un peu la magie des lieux.
Oui, il manque juste la brume. S'il y avait la brume, là, on aurait presque peur.
C'est vrai. Peur, vous croyez ?
Non,
vous auriez peur
bien.
De quoi ? Du loup ?
Du loup. Si seulement c'était vrai.
Eh ouais, si on pouvait le croiser. Oui. Ça, c'est pas le bonheur de tout le monde, mais pour nous, en tout cas, curieux de nature, on aimerait bien ça. Ouais.
Ça serait extraordinaire.
Eh bien, on va continuer à gravir ce chemin qui mène jusqu'au sommet du Puy des Gouttes.
Allons-y.
Qui m'incite à penser une fois de plus que décidément en Auvergne, il y a vraiment plus de montées que de descentes. Alors, c'est pas de moi, c'est de Vialat, bien sûr.
H2O vous emmène en balade.
Catherine Laine a écrit un livre paru aux éditions Belin, livre intitulé « Vous avez dit bizarre ». Catherine Laine est une curieuse de nature comme on les aime, amoureuse des plantes et des arbres au port étrange, ce qui a donc donné naissance à ce fameux livre, hein, Catherine. On est sur les flancs du Puy des Gouttes, en plein cœur de la chaîne des Puys. On a des arbres autour de nous qui ont des ports étranges et que vous appelez, vous, des candélabres.
Hein. Des candélabres, effectivement, vous voyez, on est devant quelques conifères qui, vous les regardez, tous, ils ont au sommet une allure un peu bizarre. Au lieu d'avoir cette flèche unique qui monte vers le ciel, comme c'est normalement le port d'un conifère normal, vous avez en fait des candélabres, des branches qui se courbent et qui se redressent, plusieurs, ça fait aussi des petites forêts suspendues. Alors que s'est-il passé pour tous ces arbres ? Eh bien, ils ont tous perdu la tête.
Ah. Donc, ils ne sont pas les seuls en même temps. Les voilà. Humains, ça leur arrive souvent.
Vraisemblablement, vous voyez, on est dans un couloir de vent, là, ici. Et je pense que les tempêtes successives ont fait que le haut des arbres a été cassé. Donc le bourgeon terminal qui construisait l'arbre et qui faisait la flèche a été perdu. Et donc les branches latérales qui sont juste en dessous, ou même des bourgeons qui se trouvaient en dessous, qui étaient inhibés par ce bourgeon terminal, sont repartis et ont repris la croissance verticale à la place de la flèche disparue. Et ça vous fait ces espèces de candélabres, de chandeliers à sept branches.
Ouais, fouetté par le vent. Hein.
Fouetté par le vent,
on
c'est
entend
beau,
bien,
je
là. Ah oui, oui, on a l'impression, à chaque fois je le dis, que l'océan est de l'autre côté. On va se tourner, Catherine. On va se tourner et on va regarder un être.
Il y en a même deux.
Hein. Il y en a même
on,
deux.
On va s'en approcher. Deux êtres très anciens. Hein. Je pense que là, l'âge est au-delà de 100 ans, ça c'est sûr. Complètement abîmés. Vous voyez que les troncs sont à terre. Enfin, les sommets des troncs sont à terre. Les branches maîtresses sont à terre. C'est couvert de mousse. Alors, c'est très fantasmagorique. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut s'en approcher et voir les champignons qui sont en train de grignoter ce bois mort au sol et de recycler cette matière organique. Donc le bois mort sur le sol est très utile dans une forêt parce qu'il va nourrir tout un cortège de champignons, d'insectes, de décomposeurs, de recycleurs. Et donc il faut effectivement ne pas enlever ce bois mort, non seulement parce que c'est beau, mais en plus c'est utile et ça permet ça fait partie du cycle du carbone, du cycle de la vie.
Et à la faveur d'une matinée humide, comme c'est le cas au moment où on enregistre cette balade, ça donne à la mousse 50 nuances de vert. Là.
Ah, c'est exactement ça, 50 nuances de vert, c'est joli.
N'est-ce pas ? Et donc les champignons dont vous parliez, c'est ce qu'on appelle les polypores ?
Oui, voilà, on les devine de loin, ces polypores, donc ça c'est pas extraordinaire. Un polypore, ce qu'on voit là sur le bois mort, ce sont les organes sexuels du champignon, qui lui, le vrai corps de ce champignon, ce sont des filaments qui s'insinuent dans le bois mort et qui digèrent ce bois mort. Donc on va s'approcher parce que ces champignons, ils sont quand même un peu bizarres.
Donc là, on a les fameux polypores.
Voilà, les fameux polypores, ce sont des amadouviers qui sont en train de digérer ce bois mort.
Gros champignons. Hein.
Gros champignons. Ces polypores, comme leur nom l'indique, ont plein de pores. Ces pores, ce sont des petits trous qui se trouvent en dessous des coupoles. Si vous regardez en dessous, vous verrez ces petits trous. De ces petits trous s'échappent les spores, qui sont les éléments reproducteurs du champignon. D'accord ? Mais pour tomber, pour sortir de ces pores, qui sont en fait des tuyaux très fins, ça se passe par la gravité. Donc ces tuyaux qui permettent, ces tubes en fait, qui permettent la sortie des pores, indiquent finalement la verticale, comme un fil à plomb. Et si ce tuyau n'est plus vertical, la sporée ne peut pas se faire, c'est-à-dire la sortie des spores n'a plus lieu. Donc que s'est-il passé ici sur cet arbre ? Ça veut dire que au départ, quand il était encore debout, il était à moitié mort déjà, et il y avait déjà des polypores installés sur son tronc vertical. Ces polypores avaient des coupoles horizontales, d'accord ? L'arbre, coup de vent, est tombé à terre, le bois mort est à terre maintenant,
et, donc
le champignon bien vivant qui est en train de se nourrir de ce bois mort, il ne peut plus faire sa sporée parce que les tubes de ses coupoles sont horizontales, ouais. Elles ne sont plus verticales. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il refabrique une nouvelle coupole à partir de l'ancienne, qui, elle, sera cette fois bien horizontale, et c'est pourquoi vous avez des coupoles à la fois verticales et horizontales qui indiquent, eh bien, finalement, la vie de ce bois mort, la vie de ce champignon. Hein. Au départ, on est sur une chandelle verticale et à la fin, on est sur un bois horizontal.
Ce qui permet donc la lecture des événements qui se sont produits.
C'est assez original quand même de voir ça, ces deux séries de coupoles orthogonales.
Et alors là, on a sous les yeux l'exemple typique de l'arbre mort qui a sa fonction dans la litière forestière, dans la vie de la forêt. Il faut savoir laisser les branches et les arbres morts parce que si on enlève ça, on enlève autant de nourriture autant de vie associée, parce qu'il y a certes les champignons, mais il y a tout le reste aussi.
Il y a tout le reste, il y a beaucoup d'insectes, il y a bien sûr tout le monde bactérien. Donc oui, ça c'est une richesse. Ici, nous sommes sur un écosystème à part entière, un écosystème de bois mort.
H2O, partez en balade.
Suite et fin de notre balade le long du puits des gouttes, le bien nommé, parce qu'on termine cette balade sous la pluie, et c'est comme ça. Il faut faire avec les éléments naturels. Nous sommes en compagnie de Catherine Laine, qui, je vous le rappelle, est botaniste et qui est l'auteur aussi d'un livre intitulé « Vous avez dit bizarre », paru aux éditions Belin. Avec vous, Catherine, on découvre quelques-uns des sujets qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce livre. Et là, nous sommes à côté de deux sujets dont on va parler dans quelques instants. Mais avant de venir sur ce site, nous sommes passés sur les crêtes du volcan des gouttes, du puits des gouttes. On ne pouvait pas rester parce que le temps est trop agité, trop de vent, trop de pluie. Et on a croisé des petits sujets, des petits êtres, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces petits
êtres ? Oui, alors ils ne sont pas bien grands, on pourrait penser qu'ils sont très jeunes, mais je pense qu'ils sont déjà très âgés. Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont qu'ils vivent dans des conditions extrêmes, vous les avez mesurés, Christophe, en passant. Comment faire pour tenir là-haut par ce vent, par cette pluie, par ce froid ? Eh bien, eux, la solution, c'est de pousser pas très haut, d'avoir une croissance réduite. Donc il y a un petit côté bonsaï chez ces êtres-là. Et puis, on en a même vu un qui a une sorte de coussinet à la base. En fait, c'est un être à deux visages. À la base, vous avez des petits rejets tout tordus qui sont broutés par les moutons, qui sont écrasés par la neige, qui ont donc vraiment des difficultés à pousser. Donc, ça fait un espèce de buisson bas. Et de ce buisson surgit un tronc qui ne monte pas très haut, comme on l'a dit, qui est déjà assez épais, lui aussi assez tordu. Et donc, un bourgeon a pu s'échapper de ce buisson et a donné cet axe dressé. Mais alors, un axe dressé résistant aux conditions climatiques. Mais on voit qu'il a du mal quand même.
Ouais, c'est la fameuse résilience dont on parlait.
Voilà, on est là à la limite de la répartition des arbres. Quand on est au sommet du Puy des Gouttes, il n'y a pas d'arbres au sommet du Puy de Dôme, au sommet du Puy de Sancy. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un département auvergnat où la limite entre l'étage montagnard et subalpin. Le subalpin, il n'y a pas d'arbres chez nous. Alors que normalement dans les Alpes, l'étage subalpin, c'est l'étage des résineux. C'est l'étage des épicéas, c'est l'étage des mélèzes. Chez nous, il n'y a pas d'arbres parce que les conditions climatiques sont trop dures. C'est étonnant hein, par rapport aux Alpes. En fait, essentiellement le vent, le froid. Hein. Nous sommes la première barrière de montagne, première barrière aux perturbations qui viennent de l'océan.
L'Atlantique, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, on a à côté de nous deux sujets, là, c'est un peu le mariage des opposés, là, non ?
Oui, c'est un drôle de mariage.
L'union des opposés, plutôt.
Voilà, on a deux arbres, là, qui s'enlacent, qui s'accolent, qui semblent s'embrasser, un peu comme ceux qu'on a vus dans la hêtraie. Mais là, on est un épicéa et un hêtre. Et quand on est deux essences différentes, on ne peut pas fusionner. C'est la loi dans le monde des arbres. On fusionne, les anastomoses entre les axes sont possibles naturellement entre des axes de même espèce. Donc ici, on a deux espèces différentes, même deux genres, même, j'allais dire, deux familles complètement différentes. Donc ça ne fusionne pas. Alors qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça s'affronte. Ça s'affronte, alors ça fait quand même des bourrelets où l'un tente d'avaler l'autre, mais il n'y aura jamais de mise en commun des cambiums et donc jamais de bois commun.
Forcément un perdant alors ?
Alors, il y aura forcément un perdant, il y en a un qui finira étouffé par l'autre. Ce qu'on voit, c'est que le hêtre a plutôt tendance à venir embrasser l'épicéa qui lui pousse parfaitement droit. Ben, il est possible que ce hêtre, à un moment, gêne complètement la croissance de l'épicéa et que ce soit lui qui souffre. Bon, là encore une fois, Christophe, il faut qu'on revienne d'ici une centaine d'années pour pouvoir juger de la fin du combat.
Ok, on amènera du chocolat et des boissons chaudes. Hein. Et là, effectivement, quand on voit la force du hêtre qui enlace l'épicéa, on a l'impression de voir deux bras.
Oui.
Et on se dit, et d'ailleurs, ça se produit aussi un tout petit peu plus haut,
oui.
Où on a quasiment presque la même scène.
Ouais.
On se dit qu'effectivement, il y a quand même un avantage pour le hêtre. Hein. J'aimerais
c'est
pas
possible.
Être à la place de l'épicéa.
On voit qu'il peut être un peu tortueux, ce hêtre. Ce n'est pas des tortillards, hein. Juste en face de vous, vous avez encore un bosquet. Là, nous sommes dans la hêtrée de la descente du puits. Des hêtres qui poussent dans un talus, qui sont tout tordus. Il y a l'effet talus, l'effet poids de la neige, l'effet vent, l'effet peut-être taille par l'homme, c'est possible. En tout cas, on a un bosquet là aussi complètement tordu et fantasmagorique. On voit que ces axes du hêtre peuvent être sinueux. Et donc, on comprend cet enlacement, en fait.
Sculpture végétale. Hein,
oui, c'est beau, là.
Oui, là, vraiment. Puis alors, avec la pluie, qui peut être considérée comme un des avantages pour notre balade, ça fait ressortir donc, les couleurs, le gris du hêtre,
oui,
et les nuances également de mousse, et puis une petite charbonnière qui vient se poser sur une des branches.
Et nous saluer.
Et qui nous salue par la même occasion. En tout cas, on a vu à travers cette balade à quel point, quand on prend le temps d'être observateur, d'être contemplatif aussi, quand on a l'œil un peu curieux, il y a des tas de portes d'entrée qui nous permettent finalement de lire le paysage qui nous entoure. Hein.
De lire le paysage et de lire le temps. Parce qu'on lit aussi la vie, l'évolution d'un arbre. Et donc on peut remonter le temps et comprendre les événements de la vie d'un arbre.
Et là, grâce à votre livre, on a différentes portes d'entrée qui nous permettent de comprendre finalement ce qu'on voit, ce qu'on découvre à travers les différents sujets qui se présentent à nous et comprendre un peu les histoires qui peuvent être racontées.
La plupart étant, les portes d'entrée sont souvent un peu amusantes. Chaque bizarre a un surnom, donc j'espère que vous apprécierez les surnoms des amoureux du petit pont de bois, le difforme du gland. J'ai osé. Il y en a pas mal qui prêtent à sourire, mais derrière les explications, je vous rassure, sont des explications parfaitement raisonnées et scientifiques.
Et quelle que soit la forme, on est toujours heureux auprès de son arbre.
Ah oui, ça c'est clair.
Comme le chantait Brassens. Merci beaucoup Catherine.
Merci,
de nous avoir guidés le long du Puy des Gouttes pour découvrir donc tous ces sujets. On invite celles et ceux qui nous ont accompagnés durant cette balade à faire la même balade et à redécouvrir à leur tour tous ces arbres, tous ces sujets qui méritent le coup d'œil et le respect aussi, parce que ça montre que ces arbres n'ont pas une vie comme un long fleuve tranquille. Hein. C'est agité clair. Quand même la vie d'un arbre. Merci Catherine, à très
vite. Merci, à bientôt.
Quel que soit le milieu ou l'environnement dans lequel vous vous baladez, prenez le soin de regarder attentivement l'aspect ou le port de certains arbres. Ils nourriront votre curiosité et votre imaginaire. Les bizarbres de Catherine Laine sont à retrouver dans son livre « Vous avez dit bizarbre » paru aux éditions Belin, prolongement logique et original de son livre « Dans la peau d'un arbre » paru il y a quelques années. Avec les bizarbres, on découvre l'extraordinaire résilience de ces êtres vivants qui peuvent prendre toutes les formes et toutes les postures suivant les aléas climatiques ou physiques qu'ils ont eu à subir. Merci à Catherine Laine de nous avoir guidés autour du Puy des Gouttes. Merci à Benoît Allard et Théo Menudier pour la prise de son et Caroline Jean-Gérard pour le mixage. Je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures nature dans la belle Auvergne.
Continuez la balade avec H2O sur francebleu.fr.